Vous êtes avec Bruno Millienne, député des Yvelines. Vous écoutez La Voix démocrate.
Bonjour les amis, dernier podcast avant les vacances d'été. Vous dire qu'on a hâte d'être en vacances, c'est une évidence, parce que nous avons beaucoup bossé depuis le début de cette nouvelle législature, dans des conditions qui sont pas faciles, mais malgré tout, je tiens à vous signaler que nous avons passé au total, depuis que nous avons été élus, 65 textes, finalement les seuls textes qui n'ont pas été adoptés par l'Assemblée sont les textes concernant le budget, enfin les projets de loi de finances, qu'ils soient général ou de la sécurité sociale ou le financement de la sécurité sociale. Mais ça, c'est pas une surprise puisque traditionnellement les oppositions ne votent jamais les budgets de la majorité, d'où effectivement les 49.3 qui ont été utilisés. Première chose. Deuxième chose, et vous le savez maintenant, on va pas revenir dessus, mais la réforme des retraites qui est effectivement passée par le 49.3, alors que, vous le savez très bien, en tout cas pour ce qui me concerne, j'étais favorable au vote. Enfin, c'est fait, dont acte. Sinon, nous avons passé 65 textes au total depuis que nous sommes entrés sur cette nouvelle législature. Preuve que l'Assemblée travaille. Preuve que l'Assemblée est capable de trouver des majorités sur les textes pour faire avancer le pays dans l'intérêt général du pays, et preuve que la Première ministre est donc à la manœuvre pour assurer effectivement ces majorités texte par texte. Donc j'en viens évidemment à vous parler un petit peu, mais pas de manière définitive, parce qu'à l'heure où je vous parle, je ne sais pas quel sera exactement le remaniement qui devrait avoir lieu d'ici la fin de semaine. Mais j'ai bien peur que, quel que soit le remaniement qui ait lieu, il ne corresponde pas tout à fait à mes aspirations et aux aspirations du MoDem en général. Nous souhaitions avoir un gouvernement plus resserré, on verra si ça sera le cas, gouvernement plus resserré avec des costauds politiques, que ce soit des hommes ou des femmes, et qui soient capables d'incarner la fonction, qui soient capables, comme je le dis souvent, de parler France aux Français, c'est-à-dire de parler français droit dans les yeux, avec sincérité, de leur expliquer les tenants et les aboutissants des textes qu'ils proposent, qui sachent faire l'avant-vente et l'après-vente finalement de leurs projets. Parce qu'au final, quand on regarde les textes qu'on a votés, ils vont plutôt dans l'amélioration générale des conditions de vie des Français, et non pas l'inverse, comme voudraient nous le faire croire à la fois les médias mainstream et surtout les oppositions quelque peu exagérées de certains partis dont la LFI, qui effectivement non seulement vote contre tout, même les mesures qui pourraient être des mesures d'ailleurs sociales pour les Français, par principe ils votent contre tout, et ce parti hautement démocratique, vous le savez, puisque même leur bureau politique n'est pas élu, donc ce parti hautement démocratique propose sur chaque texte proposé par le gouvernement, et la plupart du temps sur les textes proposés d'ailleurs par la majorité présidentielle ou par les Républicains, propose des motions de rejet, quel que soit le sujet, même si le sujet peut intéresser les Français, eh bien non, on commence par poser une motion de rejet. Pourquoi ? Parce que le texte proposé n'est pas celui dont rêve la France insoumise, mais il va falloir que la France insoumise admette une bonne fois pour toutes qu'elle n'a pas gagné ni les élections législatives, ni l'élection présidentielle, et qu'il faudrait qu'elle rentre peut-être de temps en temps dans quelque chose d'un petit peu plus constructif, parce que je pense que la France insoumise est en train d'agacer beaucoup ses partenaires de la NUPES, qui se demandent, au-delà de l'accord électoral qui leur a permis de sauver leur siège de député, au-delà de cet accord électoral, sont en train de se demander ce qu'ils sont venus dans cette galère, dans cette alliance baroque, qui ne correspond pas forcément à leurs idéaux républicains et universalistes. Voilà, fallait que je le dise, c'est dit. Côté Rassemblement National, quoi vous dire ? C'est ceux qui ont le moins bossé depuis le début de la législature, c'est eux qui ont posé le moins d'amendements, et pour la plupart des amendements qu'ils ont posés, les amendements étaient, comment dire, un petit peu fourre-tout, sans portée normative, et n'apportaient pas grand-chose au pays. Alors oui, ils sont propres sur eux, ils portent la cravate, ils sont respectueux, ils ne crient pas dans l'hémicycle. Ça n'en fait pas pour autant aujourd'hui un parti de gouvernement, parce qu'on ne sait absolument pas, le programme qu'ils ont en vue des éventuelles futures présidentielles de 2027, ce qu'ils vont pouvoir proposer et surtout comment ils vont pouvoir appliquer leur programme, parce que beaucoup des mesures qui étaient dans le programme de Marine Le Pen en 2022 auraient eu du mal à franchir le seuil du Conseil constitutionnel ou du Conseil d'État. Donc voilà, on n'en sait pas plus sur ces deux formations qui se revendiquent chacune à leur tour comme étant la première force d'opposition au macronisme, comme ils disent, mais ni la Mélenchonie, ni la Le Penie, je sais pas comment on peut dire, n'apportent de solution réelle pour le pays, en tout cas de solution qui permettrait d'apporter la concorde et l'apaisement dans ce pays. Donc voilà, donc ce podcast c'est aussi l'occasion de faire un petit bilan pour ce qui concerne le remaniement très très vite fait et très tranquillement. Nous avions nous au MoDem demandé à ce que on puisse avoir des ministres qui puissent incarner leurs fonctions, être capables de parler France comme on dit chez nous. Parce que nous, on a bien les deux pieds ancrés dans la terre glaise, donc parler France, c'est parler aux Français avec le même langage que celui qu'ils utilisent, pas de langage technocratique, être capable de leur parler les yeux dans les yeux, sincèrement, leur expliquer les tenants et les aboutissants de tous les textes qu'on peut proposer. J'ai bien peur que ce remaniement, à ce niveau-là, soit quelque peu déceptif. Pour autant, et vous nous connaissez, nous restons dans la majorité, fidèles au projet du président de la République, mais... Parce que vous nous connaissez aussi, vous savez que nous ferons jouer une petite musique différente sur chacun des textes pour essayer d'imposer nos vues qui sont en général assez pragmatiques et réalistes et très souvent frappées au coin du bon sens. Voilà, je voulais vous souhaiter d'excellentes vacances. Je crois que tout le monde a besoin de vacances, nous les premiers, parce qu'on a eu une année bien chargée, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Oui, il y a eu beaucoup de textes qui ont été discutés, et des textes très importants d'ailleurs, pour l'avenir du pays. Je vais essayer de vous en citer quelques-uns. Le texte de l'accélération des énergies renouvelables, le texte de l'accélération aussi du nucléaire. En gros, pourquoi accélération? Parce qu'on sait qu'on est face à une transformation radicale de la société, une transition énergétique et écologique qu'on ne peut plus éviter. Ça a été évité pendant trop longtemps par de trop nombreux gouvernements, parce que ceux qui nous reprochent aujourd'hui de rien faire, alors que nous sommes sur 6 années consécutives de baisse des gaz à effet de serre dans notre pays, hormis l'année rebond après le Covid, après le confinement, montre qu'on est sur la bonne voie, et contrairement à ce que peuvent vous dire tous les Cassandres, oui, nous avons été condamnés pour inefficacité climatique, mais c'était pour la période 2015-2018. Depuis, force est de constater que non seulement les choses s'accélèrent, mais s'accélèrent vraiment, puisque nous avons rattrapé le retard sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre qu'on avait constaté avant, mais on est sur une courbe maintenant qui est structurelle et qui descend année après année, donc nous prenons le bon chemin de ça. Donc contrairement à ce que peuvent dire nos oppositions, nous travaillons beaucoup, fermement, pour l'amélioration des conditions de vie dans ce pays. Donc texte, je vous l'ai dit, d'accélération des énergies renouvelables, texte que n'a pas voté d'ailleurs, bizarrement, que n'ont pas voté les écologistes, ils se sont abstenus, alors que c'était quand même un texte qui avait pour vocation qu'on arrête d'avoir des projets d'énergie renouvelable qui ne pouvaient éclore qu'au bout de 12 ans, ça n'a pas de sens. Vous imaginez le retard qu'on peut prendre par rapport à nos concurrents européens, alors que finalement ce retard n'est pas si énorme que ça. Mais si on pouvait accélérer l'implantation des énergies renouvelables, c'est pas plus mal et puis on en a besoin. Pardon, texte également sur l'accélération du nucléaire. Alors vous avez le nucléaire traditionnel que vous connaissez, qui sont les EPR. Alors ça, on va pas construire un EPR en 5 ans, vous le savez, mais qu'au moins les autorisations de le faire sur site soient accélérées, qu'on puisse le faire rapidement, parce que le nucléaire, quoi qu'on en dise, reste l'énergie la plus décarbonée aujourd'hui qu'on ait en production. Et j'aime à rappeler, pour les tenants du tout énergie renouvelable, les différences de production de CO2 par kilowattheure d'énergie produite dans les différents pays européens. Il y a 3 pays qui sont plutôt à la pointe, la Suède, la Finlande et la France, c'est-à-dire que nous sommes en moyenne entre, on va dire, 20 grammes de CO2 par kilowattheure produit sur ces 3 pays-là, entre 20 et on va dire 30-35 grammes. alors que l'Allemagne, qui est le modèle absolu, notamment pendant un temps, de l'ONG Greenpeace, qui était bien financée par les Allemands pour balancer des fake news, ça a été prouvé depuis, et le modèle de nos amis de la France insoumise, mais aussi de nos amis écologistes, le modèle roi, le modèle suprême, celui qu'on devrait à tout prix appliquer chez nous, et le modèle allemand, eh bien le modèle allemand, en termes de production de grammes de CO2 par kilowattheure produit, aujourd'hui, c'est assez pathétique, puisque là où on est, nous, entre 20 et 30 grammes, eux sont entre 350 et 450 grammes de CO2 par kilowattheure produit, même en utilisant la pleine capacité de leurs énergies renouvelables. Vous voyez qu'entre le dogmatisme et la réalité de la production de CO2 dans les pays, il y a un monde. Nous voulons rester assez scientifiques, assez proche de la réalité des chiffres, et essayer de faire notre planification écologique et de transition énergétique en fonction de ces chiffres-là, pour essayer de se tromper le moins possible. Voilà pour ces deux textes. Après, dans les textes importants, pour ce qui me concerne en tout cas, j'ai eu le bonheur et la joie d'apprendre le 26 décembre 2022 que j'allais piloter un groupe de travail sous l'égide du ministère de l'économie, sous l'égide de Bercy. J'avais piloté un groupe de travail sur la réindustrialisation verte, et ce groupe de travail concernait le produire, commander et acheter français, et j'ai eu l'honneur de copiloter ce groupe de travail avec un grand monsieur de l'industrie, en tout cas quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Philippe Dornano, qui est le patron de Sisley France, mais qui est aussi coprésident du mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Et nous avons mené à bon port nos travaux pour aboutir sur un objet politique non identifié, qui s'appelle le standard EEE, EEE comme excellence environnementale européenne. L'idée est assez simple et vous la comprendrez aisément. C'est dans le maquis des normes environnementales que nous avons aujourd'hui, et dans ce maquis dans lequel les entreprises peu scrupuleuses peuvent aller choisir 2-3 normes environnementales pour faire croire qu'elles font du vert. Eh bien, nous avons décidé de créer un standard qui est un standard volontaire, qui n'est pas imposé aux entreprises, mais qui est un standard qui regroupera les principales normes environnementales facilitant la transition énergétique et écologique au sein d'une trentaine de normes. Et ce standard EEE a pour mission de pouvoir embarquer tout le monde. Et pour ce faire, nous aurons des coefficients de pondération en fonction de la taille des entreprises, parce qu'on ne demandera pas la même chose aux petites, aux très petites entreprises et aux multinationales. On ne demandera pas non plus la même chose selon les secteurs d'activité dans lesquels vous travaillez. Et enfin, on mettra aussi, je pense, un coefficient de pondération pour aider les entreprises les plus carbonées à se décarboner selon un agenda tenable pour elles, donc un coefficient de pondération dans la temporalité. Ce standard EEE sera défini évidemment par un comité de normalisation organisé par l'AFNOR, dont nous assurons le lancement jeudi 20 juillet, et qui va commencer donc ses travaux dans la foulée, en espérant pouvoir aboutir fin d'année 2023, début d'année 2024, de manière à le rendre opérant. Les avantages de ce standard, je vous en parle un peu longuement parce que je suis assez fier quand même du travail qu'on a fait. Les avantages de ce standard, c'était de se dire, on veut bien commander, acheter français, mais d'abord, il faut pouvoir produire. Or, pour pouvoir produire, il faut qu'on soit compétitif. Pour être compétitif, on regarde un petit peu quels sont les facteurs qui rendent notre compétitivité compliquée. Et malgré les baisses d'impôts sur les entreprises, nous affichons un déficit de production avec les pays européens, les entreprises européennes, nos voisins, qui est estimé encore à 40 milliards par an. Donc, c'est pas sur le coût du produit final qu'on va gagner les marchés, mais bien sur nos atouts. Et nos premiers atouts, c'est notre mix énergétique qui est excessivement décarboné, et donc c'est là-dessus qu'on va jouer. On va jouer sur les normes environnementales. En plus, ça sera un outil ouvert à tous, qui accompagnera les entreprises et qui clarifiera de beaucoup l'empreinte environnementale des entreprises qui s'en empareront, et qui leur permettront d'ailleurs d'accéder à la fois aux subventions de l'État, mais surtout aux financements internationaux, et de ce côté-là, donc pour les investissements, et de l'autre côté, pour les marchés, notamment les marchés publics. Ça simplifiera la tâche des acheteurs de la commande publique, parce que quand ils verront qu'une entreprise affiche le label EEE, bien ils sauront qu'au moins cette entreprise applique des normes environnementales vertueuses et qu'ils peuvent s'engager effectivement sans aucun problème avec cette entreprise. Donc ça, c'est un outil que vous ne voyez pas dans la loi, mais qu'on travaille à côté et qui nous a demandé beaucoup, beaucoup de travail et qui va nous demander encore beaucoup, beaucoup, dont nous souhaitons évidemment la réussite totale parce que c'est un des facteurs d'augmentation de la compétitivité de nos entreprises en France. C'est aussi un des facteurs de l'installation de projets de transition verte, de projets d'industrie verte sur nos territoires à partir de 2024. Et nous savons que le monde est en train de changer radicalement et ces industries vertes, nous devons les attirer sur notre territoire. Nous avons 5 ans pour canter cela, sinon après, d'autres pays se chargeront de le faire à notre place. Je tiens à signaler d'ailleurs qu'à cet égard que la Suède a déjà commencé et accélère vraiment sur l'industrie verte. À nous d'être en capacité de rattraper le petit léger retard que nous avons sur les Suédois et de le transformer en réussite pour notre pays, non seulement pour l'économie de notre pays, mais aussi pour le pays tout entier, pour faire naître cette nouvelle génération d'ouvriers qui vont travailler demain dans des entreprises qui font sens, puisque c'est des entreprises qui vont continuer effectivement à produire, faire des produits manufacturés dont nous avons besoin, mais dans le respect total de notre planète. Donc c'est un vrai changement de paradigme. Et j'espère que nous réussirons sur ce point parce que c'est important. Voilà beaucoup beaucoup d'autres textes que nous avons étudiés évidemment au cours de. Je tenais à vous parler de celui-là parce qu'il me tient à cœur, mais que nous avons étudiés lors de cette première année et demie, on va dire, de législature, ou première année de législature. On a évidemment passé bien d'autres textes, notamment sur le travail, notamment sur les énergies renouvelables, je vous l'ai dit, mais sur pas mal d'autres choses aussi, des textes d'importance, le texte sur la justice qu'on vient de voter, par exemple, qui donne des moyens inédits au ministère de la Justice, qui était le parent pauvre des politiques publiques depuis 30 ans. C'était le budget le plus faible des budgets européens et il aura augmenté en 2027 de 60% du jamais vu. Ça veut dire plus de greffiers, plus de juges, plus de personnel administratif, plus de pénitentiaires. Et tout ça, c'est grâce à l'action de la majorité dite, je sais plus comment ils disent, la majorité minoritaire, la majorité relative, continue à travailler, continue à entraîner derrière elle beaucoup de gens sur des choses forcément réalistes et pragmatiques qu'il est difficile de combattre uniquement par le dogme et par la contestation systématique. Donc voilà les amis, on a beaucoup bossé là en ce moment. Un autre projet sur lequel je suis également engagé et qui va être important pour la suite de la transition énergétique et écologique, c'est la loi de programmation énergie climat, où je suis aussi responsable d'un groupe de travail sur l'efficacité énergétique aussi bien qui concerne aussi bien le bâtiment que le transport. Vous savez aussi que j'ai beaucoup travaillé sur les zones à faible émission. La mission flash que j'avais faite avec Gérard Le Seul a porté ses fruits puisque le ministre Béchu a tout de suite convoqué les collectivités et a rassemblé les gens pour qu'ils se parlent et qu'on arrive à quelque chose de cohérent. Le rapport qui a été rendu par les collectivités reprend beaucoup, beaucoup des propositions qu'on avait faites avec Gérard Le Seul et va se déployer avec une certitude maintenant pour tout le monde, c'est que de toute façon nous avons une obligation de résultat et pas une obligation de moyens, et les agglomérations qui seront en dessous des seuils de pollution atmosphérique n'auront pas l'obligation de déployer les ZFE. Pas d'inquiétude, on va continuer à travailler sur ce sujet, on va continuer à travailler des alternatives pour les gens qui seront confrontés effectivement à la mise en place de ZFE et à la mise en place d'interdiction de certains critères de voiture. Le but, c'est de ne laisser personne sur le bord du chemin et que chacun puisse accéder aux métropoles. Parce qu'il, même s'il n'a pas le véhicule qui peut y rentrer, il faudra qu'on lui trouve une alternative. Donc voilà, tout ça c'est du travail concret, c'est très loin de tout ce qu'on peut entendre à la fois sur les médias mainstream, sur les chaînes d'info, sur la polémique constante qui est organisée par certains partis d'opposition. On essaye de passer outre, je vous dis pas que c'est tout le temps facile dans l'hémicycle, mais on essaye de passer outre et d'avancer, de continuer d'avancer pour le bien du pays. Alors peut-être que nous sommes pas de très bons commerciaux et que nous ne savons pas ni vendre nos projets de loi avant qu'ils arrivent dans l'hémicycle, ni les vendre après, mais je peux vous assurer qu'on continue à travailler et on continue à travailler pour l'avenir de la France. Voilà, j'ai été beaucoup trop bavard sur ce podcast, mais je tenais à vous dire ça, vous de porter quand même un petit message d'espoir dans cette période estivale qui commence où tout le monde va prendre des vacances. Je vais en prendre aussi, elles sont les bienvenues, et je vais revenir en pleine forme pour continuer à pousser mes idées, à pousser les idées du MoDem au sein des différents ministères, de manière à ce que on puisse continuer à avancer pour la France. Donc je vais revenir, je crois, plus en forme que jamais pour continuer l'action dans laquelle nous sommes engagés au bénéfice des Français, et je dis bien des Français et de tous les Français. Bonnes vacances, les amis, profitez bien. N'oubliez pas de vous crémer, il y a du soleil en ce moment. Faites attention à vous et on se retrouve à la rentrée. Bye bye.
Vous avez écouté La Voix démocrate. C'était Bruno Millienne, député des Yvelines.